Des sous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier.
Il n'y a pas de moyen plus violent de coercition des employeurs et des gouvernements contre les salariés que le chômage.
Vous aurez peut-être connu la voix de Henri Krasucki, qui était le représentant de la CGT. C'est un extrait d'un documentaire qui est fait par Gilles Balbastre, documentaire en deux parties, dont vous avez malheureusement déjà loupé la première partie, justement, si vous n'avez pas regardé la cinquième, dimanche 2 à 16h. Mais vous avez une deuxième chance de rattraper cela en regardant la deuxième partie, le 9, toujours donc sur la cinquième à 16h. Donc le documentaire de Gilles Balbastre, Le chômage a une histoire. Alors j'ai été le rencontrer dans les hauts de Point du Jour, la maison de production qui lui a laissé l'occasion, parce que je pense que c'est, on peut dire cela, de faire le reportage que j'ai vu et qui est vraiment, je pense, admirable. Je ne peux que vous encourager à essayer de le voir, donc le 9 sur la 5e. La première question que j'ai posée à Gilles Balbastre, c'est de savoir si son documentaire est un documentaire engagé.
Je ne dirais pas que ça fait militant, parce que tout est militant, tout est engagé. Il y avait une journaliste du Monde TV, le Monde TV, vous savez, c'est le télé 7 jours là, pour les classes moyennes, c'est-à-dire il n'y a rien dedans, et elle me disait, mais au fond, vous êtes un réalisateur engagé. Je disais, attendez, vous êtes engagé. Quand des gens vont faire leur course à IKEA tous les samedis, ils sont engagés dans un processus. Tout le monde est engagé. Non, c'est-à-dire que c'est un film qui analyse, d'une certaine façon, et qui produit une analyse politique et économique du monde. Effectivement, si c'est ça être engagé, c'est engagé. Et effectivement, c'est plutôt une analyse de gauche. Mais au fond, encore une fois, si ça, c'est faire une analyse, pour moi, qui est objectivante du monde, donc qui est de gauche, effectivement, c'est un film engagé. Ouais.
C'est un film qui est bâti sur donc, deux épisodes. Le premier va de 1967, si je me souviens, 1901, Victoire de la gauche, et puis en 2001. Pourquoi avoir choisi 1881
à l'origine, donc, on voulait effectivement en faire trois. On voulait s'arrêter juste avant la victoire de la gauche en 81 pour développer plus longuement, d'une part, les premières promesses de gauche, ou en tout cas, bon, je dirais, en termes économiques, keynésiennes, c'est-à-dire au fond, un plan de relance, relance par la consommation, appuyé sur des nationalisations. Donc sur une mainmise des appareils de production, notamment banquiers, voire un peu industriels, de l'État, qui était quelque chose qui n'était pas aberrant, au fond. Une nationalisation un peu, oui, mais le plan de relance, non. Je veux dire, en 74, Chirac fait un plan de relance. Il embauche 40 000 fonctionnaires, notamment des agents des France Télécom. C'est là où on rattrape le retard du téléphone en France. On embauche des lignards, hein. On augmente les allocations familiales, les prestations sociales, et au fond, c'est un plan de relance qui ressemble à celui de la gauche de 81, parce qu'à l'époque, encore, jusqu'à grosso modo à barre, on pense encore que l'État a une importance, que l'économie est encadrée par l'État, et que tout ce qui est le laisser-faire du marché est dangereux. Aussi bien des gens de droite que de gauche pensent ça, et que le laisser-faire du marché est quelque chose d'aberrant, jusqu'en 78. Donc, au fond, on voulait s'arrêter pour mieux montrer ce qui se passe en 80 et pour mieux montrer la trahison, au fond, et le renversement, effectivement, la trahison pour moi. Bon, on n'a eu que deux, donc, effectivement, on s'est arrêté aux premières promesses de la gauche pour recommencer, au fond, le second et s'apesantir sur ce tournant de la rigueur de 82-83 qui va marquer, au fond, l'arrêt d'une autre vision du monde, d'une autre vision économique du monde. Et ça, c'est fondamental, parce qu'à partir de ce moment-là, il n'y a plus de débat, puisqu'il n'y a plus qu'une économie. Grosso modo, ça va être les libéraux purs et les autres qui sont pour matiner ça d'humanisme, entre guillemets. Hein. Mais au fond, il n'y a plus de contestation possible de l'ordre économique établi, et au fond, de ce que génère le capitalisme. C'est-à-dire une immense injustice, une immense mauvaise distribution des riches, induite par le travail. Et c'est la base, ça. Et au fond, cette base, que le travail induit la richesse, j'allais le dire au bout d'un moment, le capitalisme le transforme depuis tout le temps, au fond. Mais avant, il y avait une contestation de ça, dit que le travail, c'est un coût. Et c'est pour ça que le capitalisme, le capital n'a jamais... c'est pas un hasard. C'est parce que le travail qui est la spécificité de l'homme et qui, au fond, génère la richesse, c'est la base, et bien, cela n'est plus payé. Moins payé, délocalisé quand les gens résistent un peu trop, ou à payer la solidarité, la flexibilité, la précarité, au fond, des façons de contourner le SMIC en France. Et dans les pays anglo-saxons, il n'y a même plus de salaire minimum. Voilà. Et au fond, on prie là le travail. Qui est au moins mis de côté. C'est pour ça qu'il a comme il met, il a posé sa tête, l'arrière gauche. Ça permet de revenir, gauche trahi, permet de revenir au minimum normal, je dirais, de ce que les salariés ont droit quand ils produisent quelque chose.
En fin, vous insistez, j'allais dire lourdement, mais ce n'est pas le mot juste, sur justement la trahison de la gauche, mais pas seulement des hommes politiques.
Les porteurs de j'oserais ce parallèle, bien sûr, oui, effectivement, c'est que si ce discours, c'est pour ça qu'il y a deux parties aussi. J'expose plus longuement un peu où on en était, les rapports de force, la force de la classe ouvrière et au fond des salariés, des travailleurs, et au fond le rapport de force, le rapport de classe. Et effectivement, les enjeux sont là. Et peu à peu, ça s'est grignoté. Et effectivement, ce retournement idéologique, parce que à un moment donné, les salariés sont quand même relativement conscientisés. Et ça, il va falloir, à travers, je dirais, ceux qui fabriquent de la violence à vie, c'est-à-dire les intellectuels, les artistes, les journalistes, un retournement. Et ces gens-là, grosso modo, pour satisfaire d'abord leurs besoins, leur haïr, alors que 10 ans auparavant, ils s'appuyaient sur la classe ouvrière parce qu'elle était forte, et là, ils la soutenaient parce qu'ils ont retiré des plus-values, et bien, il abandonne dans sa détresse et dans son laminage, c'est là où il y a des plans de restructuration en 84, en février 84, de la sidérurgie, les mineurs, etc. Et au même moment, en février 84, au même moment, on fait vivre la crise. Et vivre la crise, c'est un retournement idéologique avec Libération en tête.
Vivre la crise, c'était l'émission qu'avait fait Yves Montand.
C'est ça, et qui était coproduite avec Libération, donc le journal de gauche, avec Laurent Geoffrin, le fameux Laurent Geoffrin, qui est quand même quelqu'un qui a été rédacteur en chef il n'y a pas longtemps de Libération, qui est rédacteur en chef du Nouvel Observateur. Et Laurent Geoffrin écrit dans le supplément de Libération, parle lors de cette émission, comme ces vieilles forteresses reléguées dans un rôle secondaire par l'évolution de l'ère militaire, la masse grisâtre de l'État français ressemble de plus en plus à un château fort inutile. La vie est ailleurs, est sourde de la crise, par l'entreprise, par l'initiative, par la communication. Voilà. Et en même temps, Montand commence en disant la crise, quelle crise ? Chez nous, les choses n'ont pas l'air catastrophiques. Le problème, c'est que ces privilèges, nous y sommes tellement habitués que nous ne les remarquons plus. Et à ce moment-là, vous avez des dizaines de milliers de gens à la même époque, à la même semaine, qui sont renvoyés, qui se retrouvent dans une merde pas possible. Effectivement, la violence de ce retournement, comment ces salariés, comment ces travailleurs, comment ces ouvriers vont recevoir ça par des mecs en face, par des intellectuels, par des journalistes, par des artistes, au fond, qui font leur carrière, parce que eux, ils vont avoir du plus-value. Les gens qui prospéraient socialement, ils vont retirer du capital politique pour creuser tous les médias, même l'émission. Ils produisent des essais continuellement. Et au fond, ces gens-là vont marteler une parole. Et c'est à travers donc les intellectuels, à travers par exemple une fondation comme la Fondation Saint-Simon, à travers un syndicat, la CFDT, qui se retourne complètement, à travers la liste, des journaux, la télé, il y a une véritable propagande à cette époque, qui martèle, il y a trop d'État, pas d'État-providence, à bas les services publics, il y a trop d'acquis, etc. Et il faut plus de flexibilité, tout ça. À travers des journaux, comme Libération, Nouvel Observateur, etc., Le Monde aussi, effectivement, à travers tous ces médias, à travers toutes ces paroles d'intellectuels et d'artistes aussi, il y a un profond reniement des valeurs de gauche, mais aussi, grosso modo, un abandon de gens dans la merde dans laquelle ils sont. Oui, et au fond, en fait, tout ce travail très fort qu'a mis en place ces intellectuels, ces journalistes, ces artistes, soi-disant de gauche, au fond, qui ont trahi profondément et qui ont répété, qui au fond ont servi leurs propres intérêts, ça donne par exemple des choses aberrantes. Aberrante, et même maintenant, regardez par exemple ce que dit Jacques Julliard dans ce journal, qui est soi-disant un journal de gauche, le Nouvel Observateur, le 18 octobre. Qu'est-ce que peut dire Jacques Julliard ? Il dit dans un éditorial, où étions-nous le 10 septembre ? Ah oui, les grèves de rentrée, la grève saisonnière de la SNCF, un peu furtive en cet automne, c'est vrai, un peu honteuse, et même un peu minable. Les salaires, les retraites, les effectifs, les conditions de travail, l'éternelle ratatouille rassembleuse de nos repas de famille, cela n'est guère sérieux. Voilà ce que peut dire quelqu'un comme ça. Lui, il n'a pas de problème de salaire, il n'a pas de problème de conditions de travail, il n'a pas de problème de retraite. Ça, c'est pas d'une violence extrême, énorme, inadmissible. C'est pas beaucoup plus grave que les actes de violence de petits rebeux ou de petits blancs prolétarisés de banlieue. Cette phrase-là qu'un intellectuel français, soi-disant de gauche, dit comme ça dans un journal. Et ça montre pas qu'effectivement, il n'y a plus rien à attendre des médias, plus rien à attendre des médias, et soi-disant des médias de gauche. Et que là aussi, effectivement, il faut arrêter de les écouter et il faut produire autre chose. Il faut produire autre chose. Et effectivement, on a un certain nombre, par exemple, avec des gens comme Serge Halimi, le journaliste du Monde Diplomatique, etc., avoir fait un journal qui s'appelle Pour lire Fanny, PLPL, je vous invite, et j'invite les auditeurs à parfois le lire, qui est un journal, effectivement, qui attaque les médias et qui attaque les Geoffrin, Julie, Julia, etc., etc., etc. Tous ces gens-là qu'il faut démonter. Parce que maintenant, les Geoffrin, ils retournent Kazakh. Après tout ce qu'il a dit en 83-84 contre l'État, hein, après les phrases que je vous ai citées qu'il écrivait dans Libération, monsieur a fait un essai comme quoi il dit que la mondialisation est dangereuse. Ces gens-là sont capables de dire tout et leur contraire uniquement pour leur intérêt, pour s'en mettre plus dans les poches, au fond. Et ça, il faut le dire. Et il faut que les mecs de gauche, les salariés, au fond, ceux qui ont les intérêts, ceux qui ont des intérêts à ça, il faut qu'ils arrêtent d'écouter et qu'ils dénoncent ces gens-là. Parce que parfois, ils peuvent se faire, excusez-moi l'expression, baiser par ces faux intellectuels de gauche. Ce sont des faux intellectuels de gauche et Dieu sait qu'ils ont fait du mal et énormément du mal à la classe ouvrière, aux travailleurs, aux salariés dans leur ensemble.
Il n'y a pas de moyen plus violent de coercition des employeurs et des gouvernements contre les salariés que le chômage.
Vous avez choisi de ne pas donner beaucoup de témoignages, on pourrait dire, de personnes dans comment pourrait-on dire, dans la dèche des gens qui sont mis au chômage. Des témoignages, il y en a peu. Quand il y en a, ils sont forts, par contre.
Par contre, les témoignages sont issus de regards de documentaristes, de réalisateurs. C'est-à-dire, on est allé chercher des archives, voire parfois pas des archives de la télévision, hein. Contrairement à ce que j'ai lu par exemple dans les critiques là qui sortent un peu dans Télérama, voire dans les Inconcuptibles. Attendez, c'est quand même normal que dans la grosse bouillie télévisuelle, on a réussi à sortir de temps en temps un ou deux documents qui étaient intéressants. Mmh. Alors que ces journaux prétendent que ça montre la richesse de la télévision. Non, ils sont complètement trompés. Ça montre pas la richesse, effectivement. Je sors la moelle substantielle de ce que la télévision a pu produire, et pas toujours, parce que dans ces archives-là, dans ces documentaires, il y a un certain nombre de produits de films militants, et qui sont au fond jamais passés à la télévision. Ça, il faut le dire. Donc, effectivement, les paroles, je dirais, de gens sont montrées à travers ces regards, à travers ses travaux, à travers ses documentaires, voire ses téléfilms. Mais nous, on a fait uniquement des interviews des protagonistes de l'époque, c'est-à-dire des hommes politiques qui étaient au gouvernement, de ministres, de responsables syndicaux, de responsables patronaux, voire de hauts fonctionnaires, pour leur demander de se replacer dans l'époque et de revisiter leur prise de décision et le contexte dans lequel ils ont pris ces décisions. Et ça permettait aussi d'opposer un peu leurs paroles, pas forcément dans un souci, je veux dire, poujadiste, hein, tous pourris, etc. Non, mais de remettre, au fond, la grande faillite de ce système-là, du système politique, et la grande lâcheté aussi, hein, et l'abandon, en tout cas, pas de la droite, parce qu'au fond, la droite, elle va là où elle doit être, quoique, encore une fois, je répète, c'est au départ, elle est keynésienne, elle n'est pas forcément pour le libre marché, elle est plutôt pour l'intervention de l'État. Mais c'est surtout, à la limite, la gauche, effectivement, là, qui renie ses valeurs profondes.
Un de mes amis récemment se posait la question de savoir si le chômage était un problème pour la société et surtout, à la limite aussi, si le chômage était un problème pour les chômeurs. Je lui avais rétorqué que le problème n'était pas là, mais qu'il fallait plutôt voir quel était. Comment se fait-il que le chômage n'est pas présenté comme étant un problème pour la société et quelles sont les raisons pour lesquelles les chômeurs finalement finissent par ne pas se faire entendre alors qu'il y a. Je ne sais plus trop combien de millions, 2 millions officiellement, je crois, mais bien plus officieusement de chômeurs. Quelle analyse faites-vous du fait qu'il y ait un tel silence, justement, autour du chômage ?
actuellement.
Au fond, je crois qu'il y a eu quand même des documents, parfois des interviews de chômeurs, plus ou moins, etc. Mais ce que le chômage a permis, c'est surtout le repli des luttes. Le fait que les salariés se retrouvent soit culpabilisés, soit parce qu'ils ont un travail, parce qu'ils vont gagner trop. Et c'est vrai que la phrase de Krasucki à la fin est d'une grande banalité, mais au fond, elle résume assez bien. C'est vrai qu'il n'y a pas de force plus grande que le chômage pour attaquer les droits des gens, des salariés, au fond. Et le chômage, surtout, ce qu'il permet, c'est d'installer les salariés dans une insécurité. Dans la première des violences, au fond, qui est la violence économique, l'insécurité économique. On nous rabâche là les oreilles et la campagne électorale va se faire autour de l'insécurité, mais la première insécurité, c'est l'insécurité économique. Parce qu'effectivement, il y a les chômeurs, mais après, il y a aussi ceux qui sont salariés et qui sont dans une situation précaire. Même parfois des CDI se retrouvent, des contrats à durée indéterminée se retrouvent dans des positionnements précaires. Parce qu'ils ont peur. C'est ce que je vois que Serge Pogam a écrit un livre sur les salariés précaires, au fond. Et il montre que même les salariés intégrés se retrouvent à être précaires. Parce que, au fond, le libéralisme renvoie dans une énorme insécurité. Résumé, au fond, par Pompidou en 1967, dit, au fond, aux patrons, aux commerçants, etc., vous allez vivre dans l'insécurité permanente maintenant, parce qu'il y a l'ouverture des frontières, vous étiez dans le cocon d'une économie protectionniste, dans un État qui vous protégeait, au fond, qui a été aussi la grande force des économies occidentales. C'est l'État-providence d'après-guerre. C'est ça qui a aussi créé de la richesse. C'est d'une part aussi par la mise en place de la sécurité sociale, par les acquis, par le chômage, les ascédiques, l'unédic. Tout ça a permis d'enlever la classe ouvrière, c'est-à-dire la majorité des gens, au fond, de la paupérisation. Et leur a permis de vivre plus dans la sécurité, donc au fond, de mieux produire, que leur travail engendre beaucoup plus de richesses et qu'ils puissent consommer puisqu'ils avaient un peu plus d'argent. C'est ça, au fond, aussi, comment la richesse est arrivée en Europe et en Occident. Et c'est grâce à l'État, notamment à l'État-providence, il n'est pas question de ne pas réformer cet État, enfin le réformer dans un sens beaucoup plus, je dirais, démocratique, pas le réformer dans le sens des libéraux. Hein. Bien sûr, on ne veut pas du tout ce genre de bataille, mais au fond, c'est vrai, il ne faut pas l'oublier quand même que ça a permis notamment l'État à protéger les petits, surtout des petits, c'est-à-dire la masse des gens. Et au fond, tout le discours libéral consiste à ramener dans l'insécurité tous les gens, les chômeurs, mais aussi les autres. Ceux qui travaillent, etc. Et au fond, on arrive dans un peu dans les travaux de quelqu'un comme Loïc Bacan, par exemple, le sociologue proche de Bourdieu, qui, dans son petit bouquin dans Raison d'agir, écrit les prisons de la misère et montre que les franges les plus prolétarisées, les marges du prolétariat actuel, qui peut être un prolétariat ouvrier ou employé, hein, dans le tertiaire aussi, les centres d'appel téléphonique, tout ce qui est la restauration, la petite restauration, les McDo, tout ça, enfin tout ça, le commerce, l'hôtellerie, voire le bâtiment, enfin tous ces secteurs-là, renvoient des gens dans un emploi ou dans un emploi peu qualifié, mal rémunéré, mal protégé, et dans l'insécurité et dans la violence. Et voilà. Et au fond, effectivement, cette violence, elle sort après. Elle sort dans une violence urbaine, dans les enfants qui n'en peuvent plus, qui ne savent plus où ils vont, ils n'ont plus de raison d'être, plus de sens, etc. Mais on oublie toujours de parler de la première violence. Celle que génère ce système, celle que génère au fond le libéralisme par la casse des protections. Et au fond, qui a permis aussi le chômage. Parce que ça a isolé les gens, parce que ça a cassé le collectif, parce que ça leur a fait peur. Et voilà, c'est tout un système qui a très très bien fonctionné au fond. Et c'est vrai que Krasu, c'est pas con ce qu'il dit à la fin du film.
Et quelle lueur d'espoir dans cette espèce de magma informe voyez-vous?
Alors, la lueur d'espoir, c'est d'abord que de refaire une histoire, c'est-à-dire remettre de l'historicité aux choses, c'est de permettre de montrer d'abord que tout n'a pas été tout le temps pareil. C'est-à-dire que si la première partie insiste un peu plus sur le rapport de force, sur le pouvoir aussi que pouvait avoir la classe ouvrière, l'arrogance qu'a Ségui, je sais que parfois on a souffert, moi j'étais jeune et plutôt gauchiste à l'époque, et plutôt contre parfois le PC et la CGT, et pourtant au fond quelle force, quelle arrogance et quel pouvoir dans cette émission Armée Égale face à Sérac, il en a rien à foutre, il emmerde Alain Duhamel qui va pérorer après plus tard 10 ans après parce que lui il pourra faire ce qu'il veut hein, Duhamel, mais là il est obligé de dire amen devant Ségui.
Il n'y a pas de moyens plus violent de coercition des employeurs et des gouvernements contre les salariés que le chômage. Aucune répression physique, aucune troupe qui matraque, qui lance des grenades lacrymogènes, ce que vous voulez, rien n'est aussi puissant comme moyen contre la volonté simplement d'affirmer une dignité, d'affirmer la possibilité d'être considéré comme un être humain.
Il y a un vrai rapport de force à l'époque. Et de remettre en perspective ça, notamment pour les jeunes, de remettre au fond que le libéralisme, c'est pas quelque chose de naturel, c'est pas naturalisé. Au fond que maintenant, la marge se situerait entre un libéralisme sauvage et un libéralisme un peu humanisé, vaguement humanisé. Non, c'est pas ça. Il y a eu d'autres enjeux, d'autres questions, d'autres interrogations, d'autres positionnements. Et de remettre ça, en histoire, c'est de remontrer aux jeunes aussi qu'effectivement, il y a eu d'autres paroles qui ne sont pas forcément ringardes, qui représentaient des forces, des combats, et pour des mondes parfois qui étaient quand même meilleurs. Donc ça, c'est important. Alors effectivement, c'est que l'histoire n'est pas finie, n'est pas écrite. C'est pas la fin de l'histoire. Moi, je dis toujours que, je pense 30 ou 40 ans avant la Révolution française, la monarchie était naturalisée, hein, on ne pensait pas changer de système politique, c'était le sang bleu, ça venait de Dieu, hein, et qu'au fond, ils avaient réussi à naturaliser un système politique qui, la Révolution française a démontré, pouvait démonter. Donc le libéralisme est très fort, le capitalisme, hein, on dit souvent libéralisme, au fond c'est le capitalisme, il a toujours été, il y a un siècle, il était aussi virulent, puissant et sauvage, au fond, hein. Ça se répète un peu. Et que, bon, voilà, il est là, fort, puissant, mais que l'époque n'est pas écrite et que effectivement il peut être combattu. Mais à mon avis, s'il faut qu'il soit combattu, c'est qu'il faut, il faut qu'il soit combattu radicalement. Et pas uniquement en disant un point d'humanisme, etc. Moi, je m'inscris dans un combat fort anticapitaliste, oui, effectivement. Et pas vaguement social-démocrate, social-chrétien ou humanisant. Non, pas du tout. Je veux dire que ce système, c'est ce système qui génère de la violence, du malheur, des guerres, des conflits. C'est ce système-là. Alors, ce n'est pas aussi simple, hein, effectivement, de le changer. Il ne suffit pas de dire ça pour, au fond, être parfait au bout et de mettre un système en place différent et qui respecte l'être humain, au fond. On a vu ce que ça a donné dans les pays de l'Est. Donc, effectivement, le combat, il existe encore et toujours.
C'était donc Gilles Balbastre, le réalisateur du Chômage à une histoire, documentaire diffusé sur la 5e et d'où vous pourrez voir le deuxième épisode sur la période 1981-2001, 16h sur 5e donc. Si vous voulez avoir des renseignements sur ce documentaire, si vous regrettez déjà amèrement de ne pas l'avoir vu en entier, si vous voulez communiquer avec Gilles Balbastre, diffuser ce film de façon militante, une seule adresse, aligrefm, en un seul mot, .org. À l'intérieur de la grille des programmes Émission des souhaits des hommes, il y a une petite enveloppe, cliquez dessus et je transmettrai vos messages. Et une autre solution, c'est de décrire à des hommes à l'IGFM, 42 rue de Montreuil, 75 011, Paris. Et mardi prochain à 17h, nous recevrons Gérard Filoche, représentant de la gauche socialiste, c'est-à-dire l'aile gauche du PC, du PS, où il va pas être content, donc qui nous parlera de la relation sociale préconisée par le MEDEF.
Allez, docteur.